I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ça m'a un peu dérangé de ne pas pouvoir échanger avec mes parents. Tout était un peu tabou. Et puis surtout, leur apprendre à respecter leur corps, à se respecter, à choisir. Tout ce que je voulais, c'est que leur première fois se passe bien.
La sexualité, ça commence dès la naissance. Comment je protège ce corps qui n'est que à moi? J'ai le droit de dire oui ou non à n'importe qui, même à mes parents.
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, ils doivent vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé?
T'aimer? Mais qui a dit que je dois t'aimer?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants.
Bonjour Sandrine.
Bonjour Mathilde.
Je vous en
Bonjour.
Prie. Installez-vous.
Merci.
Alors Sandrine, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui?
Je viens parler de la sexualité de mes ados.
Mm-hmm. Ils ont quel âge vos ados?
Alors, j'ai trois filles. J'en ai une de 29 ans, 20 ans et 16 ans. Mm-hmm. Donc j'ai deux expériences de sexualité pour le moment. Mm-hmm. Le temps pour la troisième, je pense. Qu'est-ce que je peux vous dire que je... Pas de problème à parler de sexualité avec mes enfants. Ils n'en ont pas non plus à m'en parler.
Il y a un dialogue très libre.
Très libre.
Ouais. Comment il s'est installé ce dialogue très libre?
Je pense par moi, parce que mes parents avaient un problème à parler de sexualité. J'ai 48 ans, donc à l'époque, peut-être qu'on en parlait moins facilement. Mm-hmm. Moi, ça m'a un peu dérangé de ne pas pouvoir échanger avec mes parents. Tout était un peu tabou. Donc, je n'ai pas du tout voulu que ça se passe avec mes filles. Et puis, surtout, leur apprendre à respecter leur corps, à se respecter, à choisir avec qui, quand, comment.
Alors, comment vous les avez accompagnées chacune dans ce processus?
À partir du moment où le corps change, où au collège, on commence à... parler de pas mal de choses. Je trouve qu'aujourd'hui, les très jeunes sont très libérés sur la pornographie, qui peuvent, moi, me choquer en tant que mère. Mais bon, faut pas le montrer, il faut échanger, il faut que ça reste libre. Je voulais que mes filles m'en parlent et moi aussi, d'échanger un petit peu avec elles, parce que il n'y a pas que les enfants qui ont une sexualité, les adultes aussi. Et c'est important qu'elles puissent en parler librement, parler de tout, ou de tout ce dont elles ont envie, toujours. Et puis que, surtout, ce que je voulais, c'est que leur première fois se passe bien.
Oui, c'est important pour vous.
C'est important pour une fille comme pour un garçon. Moi, j'ai que des filles, donc je peux vous parler que des filles. Oui, je trouve que c'est très important. Très, très important. Et surtout, qu'elles aient le choix, que ce soit leur décision. Pour moi, c'est quelque chose de très important.
Vous disiez, dès le collège, vous avez commencé à parler des changements du corps. Est-ce que vous vous souvenez de comment vous en avez parlé, de ce que vous leur avez dit?
Déjà, je leur ai parlé de leur première règle, que ça allait arriver. Je parle toujours un petit peu de ce que j'ai vécu moi, parce que je pense que c'est un parcours qu'on a et qui fait qu'on veut peut-être autre chose pour nos enfants. Et par les règles, par l'attirance, par les garçons, hein, puisque ça commence souvent au collège. Souvent au collège, ils m'ont raconté pas mal de choses que leurs copines faisaient.
Vous vous souvenez ?
Ouais, ouais, je me souviens, c'était même un peu... enfin, je sais pas, c'était un peu... Waouh, choquant, oui, des copines à elle qui faisaient des fellations aux garçons dans les toilettes, dans les locales poubelles. Mmh. Et là, je me suis dit, il faut que j'intervienne quand même, parce que c'est quand même pas une normalité. De leur expliquer que c'est pas forcément grave, mais faut se respecter, faut respecter son corps. Donc voilà, on a pas mal échangé là-dessus. Mmh. Toutes les quatre, avec mes trois filles. Alors, elles parlent beaucoup aussi avec leur grande sœur, donc ça m'aide pas mal. Je pense que sur des trucs beaucoup plus intimes, elles en parlent plus avec leur grande sœur.
Oui, comme quoi, par exemple ?
Ben, je sais pas. Je sais pas. C'est vrai que, alors, les deux, celles qui ont eu les rapports, les deux premières fois, elles m'en ont parlé tout de suite. Faut s'accrocher un peu, hein, parce que c'est jamais évident de voir son enfant vous parler très librement de tout le déroulé. Mais je trouve ça plutôt sain qu'elles aient pas de problème avec ça. Parce que la sexualité, c'est important dans une vie. C'est pas tabou, ça, c'est des choses importantes. Donc, voilà.
Donc, vous dites bien que vous avez accueilli, écouté, voilà, qu'intérieurement, ça pouvait susciter plein de choses pour vous pas évidentes. mais que vous avez essayé voilà, de tenir, de pas trop montrer ce que ça pouvait susciter pour vous, le fait peut-être d'être choquée par rapport à certaines choses qu'elle pouvait faire ou raconter ou...
J'étais pas vraiment choquée, mais c'est toujours difficile parce que son enfant, ça reste toujours petit pour nous. Et quand votre fille, pour la première fois, elle vous dit « je l'ai fait 5 fois », vous vous accrochez quand même. Enfin, c'est pas simple à entendre, même si... Enfin, non, je pense pas. Peut-être qu'elles l'ont vu un petit peu sur mon visage, mais je dédramatise. J'essaie de leur montrer que c'est bien. Que, voilà. Enfin, ma dernière, elle a eu sa première relation cet été, à 20 ans. Elle a bien attendu. C'est important pour moi qu'elles attendent et qu'elles choisissent. En fait, ça, c'était quelque chose d'important. Après qu'elles le fassent à 15 ans. Mais surtout qu'elles choisissent. Donc après, il faut être à l'écoute. À partir du moment où on entame des dialogues avec nos ados, je pense qu'il faut être à l'écoute et pas avoir de jugement. Après, on a beaucoup parlé de préservatifs. Parce que c'est quelque chose... Et finalement, je trouve que nos ados se protègent pas tant que ça. C'est plus peut-être mon époque à moi. Mais aujourd'hui, non, pas forcément.
Donc vous avez parlé de préservatif. Est-ce que vous avez parlé de contraception ?
Oui. Mais alors, moi, avant de parler de contraception, c'est plus préservatif. Parce que ça préserve de beaucoup de choses. Parce qu'il n'y a pas que tomber enceinte. Il y a toutes les maladies, pas que le sida, toutes les maladies sexuellement transmissibles qui ne sont pas négligeables. Parler de tout ça, essayer de leur montrer tout ce qui peut arriver chez une femme.
Oui, vous avez utilisé des vidéos, par exemple ?
Des vidéos, après, voilà, j'ai des vidéos qu'elles lisent, des petits textes. À l'école, ils ne l'apprennent pas forcément, ou alors ils le passent très vite. Donc, c'est important pour nous, parents, de leur parler de tout ça.
Donc là, si je comprends bien, vous avez parlé des différentes maladies sexuellement transmissibles pour qu'elles soient informées.
Informées.
Que ça ne reste pas juste MST, que ça ne reste pas un mot vague.
Et c'est important de parler de tout ça. Il y a le sexe, mais il y a les maladies, il y a des conséquences après, pendant. Donc c'est important.
Vous parliez de la pornographie tout à l'heure. Est-ce que vous avez déjà surprise vos filles regarder de la pornographie ?
Je pense qu'elles l'ont fait, elles le font entre copines.
Vous avez abordé cette question-là avec elles ? Vous en parlez ?
Non, non. À partir du moment où je vois qu'elles n'ont pas forcément d'envie de parler de ça, parce qu'il faut qu'elles en aient envie aussi. Parce que même si c'est libre, ça reste un peu tabou quand même. Donc, il ne faut pas les gêner. J'ai pas envie qu'elles se braquent, parce que je vais être trop libre de parler de tout, en fait.
Alors, comment vous trouvez ce juste équilibre ? Est-ce que c'est vous qui amenez le sujet ? Est-ce que vous partez de quelque chose qui se passe ? Est-ce que c'est elles qui vont en parler ?
C'est plus elles qui en parlent, en fait. Quand on est au dîner, quand on est posées toutes les trois à la maison, je sais pas, qu'elles regardent un truc, on va venir en parler. Donc là, je vais les questionner, je vais leur donner mon avis, on va avoir un échange. Là, maintenant, par la petite de 16 ans qui n'a pas encore... Enfin bon, elle m'a dit qu'elle voulait attendre le mariage, on verra après. Mais ouais, non, c'est plus voilà, quand on est tout ensemble. Mmh. Voilà. Après, les premiers rapports, c'est plus mère-fille, mais...
Dans la sexualité, il y a quand même la question de la vie affective, voilà, le fait d'avoir un petit copain ou une petite copine. Est-ce que voilà, les relations amoureuses, est-ce que c'est quelque chose dont elle parle ? Vous avez été confrontée à des chagrins d'amour, voilà.
Alors oui, avec la grande, ça lui est arrivé une ou deux fois. Effectivement, Chloé, quand elle a eu son premier rapport, j'ai essayé de lui expliquer que c'était peut-être pas pour la vie. Parce que elle en est consciente, ça c'est pas du tout un problème, mais déjà le fait d'attendre et de faire attendre un garçon pour avoir une relation, c'est que c'est pas pour un soir, peut-être pas pour la vie, on sait pas, mais c'est quelque chose d'assez cadré dans leur tête, peut-être parce qu'elles ont vu des choses avec leurs amis, j'en sais rien, ou entendu des choses, hein, parce que maintenant elles veulent vraiment avoir quelque chose de très cadré, en fait. Maintenant, j'ai pas eu de grand drame amoureux, ça va.
Pas de chagrin d'amour à gérer.
Oui, ça m'angoisse un peu, parce que c'est toujours difficile de... Parce qu'on nous l'a vécu, on sait à quel point... Après, elles savent que je serai là. Je les soutiendrai, je les aiderai autant que je peux, mais...
Vos filles, elles parlent de sexualité avec leur père ?
Le père est pas du tout présent, donc non. Non, je suis toute seule à... Je suis toute seule avec ça. C'est peut-être ce qui peut leur manquer, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout.
Pour les ados, il y a aussi la question de la masturbation. Est-ce que c'est un thème que vous avez pu aborder avec elles ?
Pas du tout. À partir du moment où elles viennent pas sur un sujet...
Vous les emmenez pas sur le sujet ?
Non. Je préfère que ça vienne d'elles. Après, ça peut être un sujet qui va nous amener à ça. C'est ouvert, mais finalement, pas tant que ça, quoi. Enfin... En fait, les ados ont pas de mal à parler de leur sexualité, mais ils veulent pas savoir que leurs parents ont une sexualité. Ça, c'est compliqué à admettre pour eux. C'est très, très intime.
Vous parliez de l'importance de la première fois, voilà, qu'elle le fasse dans un cadre, avec quelqu'un de fixe. Est-ce que vous vous souvenez, si vous avez pu, comment vous leur en avez parlé de cette première fois ? Voilà, parce que les ados peuvent avoir des questions sur est-ce que je vais saigner ? Est-ce que c'est douloureux ? Est-ce qu'elles ont eu ces questions-là, vos filles ? Vous avez parlé, vous, de votre première fois ?
Non, elles veulent pas savoir. Non, c'est pas possible. Elles veulent pas. Elles veulent pas savoir que leur mère a une vie sexuelle, en fait. Ça, c'est pas possible. Donc, je leur parle de ce qui peut arriver la première fois. Donc, finalement, ce qui est bien, c'est qu'elles sont pas surprises d'avoir un saignement, d'avoir un peu mal, d'avoir.
Vous avez parlé de toutes ces choses.
Ouais. Enfin, de tout, j'en sais rien. Mais au moins, j'ai essayé d'être large et de leur expliquer un maximum de choses, quoi. Comme les premières règles chez une femme. Chez une fille, on essaie de lui expliquer qu'elle n'ait pas peur. Moi, mes premières règles, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Hein.
Oui, qu'elles aient davantage d'outils que ce que vous avez eu quand vous étiez adolescente.
Bah oui, mais c'est un choc. Hein. Pas simple à vivre.
Bien sûr. Merci beaucoup, Sandrine. Ce que je vous propose, c'est qu'on va rejoindre dans le salon d'à côté notre experte, Sonia Le Breuil. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Vous êtes socio-sexologue et éducatrice en santé sexuelle. Vous intervenez auprès des enfants, des adolescents dans des écoles, mais aussi à votre cabinet. Vous recevez en individuel et vous proposez aussi des animations de groupe autour de la sexualité pour les enfants, les adolescents et leurs parents. Il m'arrive de recevoir dans mon cabinet des parents d'ados qui se posent beaucoup de questions sur la manière d'aborder la sexualité avec leurs adolescents. Et comme vous venez de nous le dire, Sandrine, voilà, ça vient nous bousculer. Voilà, nous questionner aussi sur notre propre sexualité. On n'est pas toujours très, très confortable avec ça. Tout d'abord, Sonia, comme vous nous l'aviez dit lors de l'épisode sur la sexualité expliquée aux enfants, vous nous aviez dit que la sexualité est à penser dans la continuité. Alors, j'imagine que ça veut dire aussi qu'il ne faut pas se réveiller quand on est parent, quand notre enfant a 15 ans.
Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de garder en tête que la sexualité, ça commence dès la naissance. Il y a une sexualité d'enfant, une sexualité d'ado, une sexualité d'adulte. Même dans la sexualité d'ado, il y a des temps différents parce que c'est toujours la question à quel âge commence l'adolescence. Enfin, ça va être assez différent selon les ados. Il y en a qui vont avoir des gros questionnements dès le CM2, d'autres, ils veulent en parler qu'au cours du collège. Et puis, avec des questions très variées entre les... les changements du corps, les relations amoureuses, les premiers rapports, la contraception. Enfin, au final, on voit bien que c'est des temps très différents et que c'est des sujets qu'on peut pas aborder en bloc d'un seul coup, parce qu'il y a des fois, c'est pas du tout adapté à leur âge et à leur niveau de développement ou d'expérience.
Donc oui, donc Sandrine, vous nous parliez beaucoup de cet apprentissage, en tout cas ce que vous avez essayé de transmettre à vos filles, le respect du corps, voilà, vous ne l'avez pas dit comme ça, mais la question du consentement.
Oui, c'est ça. Oui.
Et donc ça sont des choses qui déjà vont se travailler dès tout petit, comme vous nous l'aviez dit dans cet épisode.
Et surtout le consentement. C'est vrai que ça, j'ai envie d'insister là-dessus, c'est que souvent on aborde cette question du consentement beaucoup trop tard, parce que c'est un peu le grand sujet qu'il faudrait aborder avec nos ados. Et moi, je me dis, en fait, il y a un moment, c'est pas l'adolescence qu'il faut qu'on commence à en parler. Il faut le mettre en pratique dès qu'ils sont tout petits, parce que le consentement, c'est juste comment je protège ce corps qui n'est que à moi. Et j'ai le droit de dire oui ou non à n'importe qui, même à mes parents. Donc ça commence dès qu'on est petit. Et pour moi, c'est pas que dans le dialogue, c'est dans l'expérientiel aussi. Si les parents, si les adultes ne font pas attention à mon corps, il y a un moment, on a beau me dire que mon corps, il est que à moi, si je peux pas l'expérimenter, je vais pas pouvoir le mettre en application plus tard. Donc c'est important, oui, vraiment d'y veiller dans notre façon d'être et de se comporter avec les enfants, dans le discours, mais dès qu'ils sont tout petits, en fait, et respecter quand ils disent oui et quand ils disent non, quand ça concerne leur corps, leur demander et les laisser poser leurs limites.
Comment cette question du consentement peut être réabordée à l'adolescence ?
Alors, à l'adolescence, ça peut être abordé un peu comme pour les enfants, sur la question notamment de l'intimité. Est-ce que d'eux-mêmes, ils peuvent poser leurs limites, par exemple, sur leur lieu d'intimité ? Est-ce qu'ils peuvent facilement fermer la porte de la salle de bain, de la chambre ? Est-ce qu'ils ont des endroits tranquilles que les autres personnes qui vivent avec eux respectent ? Et après, au moment de l'adolescence, pour moi, le consentement, enfin, c'est pas uniquement dans le rapport sexuel, ça commence déjà sur est-ce que j'accepte que l'autre se rapproche de moi, me touche, juste me touche un peu le bras ou la main, et à ce moment-là, je peux lui dire oui ou non, soit verbalement, soit avec mon corps, mais en tout cas, je peux m'autoriser dès ces premières approches à poser mes limites et à poser mon consentement.
Chez vous, Sandrine, comment s'organise finalement le respect des espaces d'intimité de chacune ?
Alors, moi, j'ai...
Est-ce qu'il y en a, ou est-ce que finalement...
Il y a du respect, enfin, je fais attention, j'ai Chloé qui est... Alors elle sort de sa chambre en string, elle marche dans la maison, elle est tout à fait à l'aise avec son corps. Mais voilà, enfin, elle va s'enfermer pour prendre sa douche. Elle va, Lola est beaucoup plus pudique, mais elle est plus jeune peut-être aussi. Donc après, elle a eu des grosses transformations de son corps. Enfin, faire 1m77 à 16 ans, tout est arrivé comme ça. Donc Lola est un peu plus pudique. Donc chacun respecte en fait. C'est-à-dire que j'essaie de leur dire, fermez pas la porte de la salle de bain. On est toutes les trois, parce que je rentrerai pas si c'est fermé. Mais elles ont besoin de ça. Donc chacun en fait, j'ai pas un grand appartement, mais suffisamment grand pour qu'elles puissent chacune avoir leur intimité, et moi la mienne, et moi la mienne aussi.
Sonia, pourquoi c'est important de parler de sexualité aux ados ?
Alors, c'est important déjà pour les sécuriser, avec tous ces questionnements, les angoisses qui peuvent être liées à la sexualité, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues qui nous font quand même très peur. Les curiosités, parce que forcément, ça nous pose question. Qu'on soit enfant, ado ou adulte, c'est des questionnements normaux qu'on a autour de la sexualité. On en a constamment. Donc, de pouvoir en parler tranquillement et sereinement avec son ado, c'est pouvoir lui proposer vraiment un cadre tranquille et serein. Déjà, ça, c'est hyper important qu'on lui transmette cette tranquillité-là pour qu'il sente que ça peut se passer en douceur, avec une temporalité qui lui appartient, et qu'on n'est pas dans quelque chose qui est interdit, où il faut se cacher, ou dans ce cas-là, on n'est plus dans quelque chose qui est très sécuritaire, parce qu'on sait pas à qui on va en parler. En plus, si on n'en parle pas avec son ado, ou si... Alors, des fois, on se sent pas en capacité de lui en parler à son ado, de sexualité. Ça peut être complètement compréhensible. Mais dans ce cas-là, c'est de voir avec lui ou avec elle quel interlocuteur il ou elle a trouvé pour pouvoir en discuter, soit poser ses questions, ses angoisses, ses curiosités, et se dire si un jour il y a une difficulté où il y a besoin de le ou la protéger, qu'il y ait vraiment cet adulte-là qui soit en mesure d'assurer cette protection et cette sécurité.
Oui, en tout cas, dans ce que vous dites, j'entends que plus l'ado va être en sécurité, rassuré, plus il va être aussi connecté à ce qui est OK pour lui, ce qui est confortable pour lui, plus la sexualité sera vécue de manière confortable, tandis que si c'est caché, tabou, il y aura peut-être plus de conduite à risque, plus de mise en danger.
Tout à fait.
Et donc plus de risques.
Oui.
Sandrine, vous nous disiez que les jeunes d'aujourd'hui sont très informés, très au fait, ont beaucoup accès à plein de choses autour de la sexualité. Sonia, quel est l'âge moyen du premier rapport sexuel en France ?
En France, on est aux alentours de 17 ans. Alors, c'est 10, de tête 17,3 pour les garçons, 17,8 pour les filles. Enfin, filles et garçons, en fait, ça s'est rejoint il y a quelques années, où on est voilà, sur une moyenne autour de 17 ans, donc ce qui correspond à la fin du lycée. Du coup.
Donc finalement, cette évolution d'information et d'accès voilà, à des images pornographiques, etc., n'a pas fait baisser l'âge du premier rapport sexuel.
Ça a réajusté l'âge entre les filles et les garçons. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est tout ce mouvement d'égalité entre les femmes et les hommes où à un moment on lutte de plus en plus contre les stéréotypes de genre et on considère filles et garçons de la même façon. Donc, est-ce que c'est ça qui a eu un impact aussi sur ce rééquilibrage de l'âge moyen au premier rapport ? Après, j'insiste sur le fait que c'est une moyenne. Parce qu'à l'adolescence, mais pas qu'à l'adolescence, on aime bien se rassurer en tout cas et à savoir les moyennes pour savoir si on est normal. Du coup, de rappeler que c'est une moyenne, ça veut dire qu'il y a des ados qui ont une sexualité avant. Et il y a des ados qui auront une sexualité après. C'est une moyenne d'âge, donc il ne faut pas oublier qu'il y en a où ce sera plus tôt et d'autres beaucoup plus tard.
Oui, parfois, tôt, voilà, j'ai en tête des parents, leur fille avait 12, 13 ans, et voilà, l'âge pouvait voilà, beaucoup influencer sur la manière dont ils ont accueilli cette réalité-là.
Complètement, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Sandrine, ce qui se passe, c'est que on voit notre enfant grandir, évoluer, devenir ado. Lui ou elle se sent ado. Les parents le considèrent encore comme un enfant. Enfin, pendant quelques années, et il y a aussi un peu ce tiraillement entre comment nous considèrent les adultes, comment on se considère en tant qu'ado. Et du coup, quand les parents apprennent comment on vit, ce qu'on peut faire dans notre vie, ça peut les choquer parce qu'ils n'ont pas la même vision qu'on va avoir de nous-mêmes.
Donc Sonia, par rapport à des repères législatifs, il y a cet âge de 15 ans, qu'est-ce qui se passe en dessous ? Quand un enfant de moins de 15 ans a une sexualité, est-ce qu'il a le droit d'avoir une sexualité en dessous de l'âge de 15 ans ?
Alors, la loi, elle opère cette distinction entre les plus de 15 ans et les moins de 15 ans. Elle n'interdit pas la sexualité aux moins de 15 ans. Par contre, elle va renforcer la protection pour les moins de 15 ans. Et les moins de 15 ans ne peuvent pas avoir une sexualité avec une personne majeure. Et d'autant plus si elle a un ascendant sur l'ado.
Bien sûr. Donc, ce qui va jouer quand même dans l'appréciation des choses, il y a cet âge de 15 ans, et puis la différence d'âge entre les deux partenaires. Si l'adolescent est avec un partenaire beaucoup plus âgé, même s'il a plus de 15 ans, si cette personne a un ascendant sur lui, ça pourrait engendrer des poursuites ou...
Tout à fait.
Autre rappel par rapport à la loi, la question de la contraception. Est-ce que les ados ont droit à la contraception ?
Alors, oui, bien entendu.
Voilà, je souris évidemment en posant cette question, c'est évident aujourd'hui.
Les ados ont droit, enfin, ont droit à l'accès à la contraception et c'est ce qui permet notamment en fait, de les sécuriser dans la sexualité. C'est pour ça que c'est très important de leur en parler jusqu'à... Que filles et garçons comprennent comment ça fonctionne, qu'on a le choix des moyens de contraception et surtout qu'on a des lieux dédiés quand on est adolescent, notamment les centres de planification, où on va être accueilli, on va pouvoir discuter avec des conseillères, conseillers conjugaux et familiaux, avec un gynécologue ou une gynécologue, avec une infirmière ou un infirmier. En tout cas, il y a des personnes qui sont vraiment là pour nous accueillir, nous expliquer comment ça fonctionne et faire en sorte qu'on choisisse ensemble. C'est important qu'on comprenne aussi que c'est l'adolescent ou l'adolescente qui choisit avec le professionnel de santé la contraception qui lui convient le mieux en fonction de son mode de vie, en fonction de ses attentes. Et la contraception pour les mineurs est gratuite. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête aussi.
Elle est gratuite dans ces centres de planification.
Dans ces centres de familial. Oui, tout à fait.
D'accord. Est-ce que, par exemple, une mineure, il me semble, peut avoir accès à la pilule, notamment la pilule du lendemain en pharmacie ?
Tout à fait. Alors, je fais juste un petit rattrapage sur le mot pilule du lendemain parce qu'on l'a beaucoup appelé comme ça et l'idée c'est qu'on l'appelle plutôt pilule d'urgence parce que plus elle est prise rapidement après le rapport, plus elle va être efficace. Plus on attend, plus elle perd en efficacité. Donc, cette pilule d'urgence, elle est accessible pour les mineurs en pharmacie gratuitement et elle est accessible également pour les mineurs auprès des infirmières scolaires.
D'accord.
Gratuitement également. Sans que les parents soient informés.
Sur ça,
bien sûr.
C'est là où je suis un peu choquée, c'est qu'on donne la gratuité sur une pilule qui a quand même un effet sur un corps et on ne parle pas du préservatif, en fait. Et moi, je trouve ça... Enfin, voilà, c'est quelque chose qui me dérange aujourd'hui. Parce qu'on ne va pas parler préservatif aux enfants, mais on va leur dire « Vous pouvez avoir accès à une pilule parce qu'on parle beaucoup de contraception, mais pas de se préserver des maladies. » Enfin,
Je trouve que là, c'est vraiment une question qui soulève beaucoup de problématiques. Déjà, à mon sens, les préservatifs, on en parle pas mal aux ados et ils sont accessibles gratuitement, notamment dans les infirmeries scolaires. Les ados peuvent en avoir. Dans les services jeunesse, il y en a en accès libre et gratuit. Enfin, c'est vrai que dans les lieux où on accueille des ados, que ce soit en scolaire ou en hors scolaire, on essaye d'en mettre à disposition. Il y a des préservatifs masculins, des préservatifs féminins, qui sont beaucoup moins utilisés par les ados. Donc ça veut dire que le préservatif, vu que c'est souvent le préservatif masculin, du coup, la contraception revient aux garçons. Donc de parler des autres moyens de contraception, comme pilule, implant, stérilet, c'est aussi de laisser la possibilité à la jeune femme, à la jeune fille, de se protéger elle aussi et d'avoir la main là-dessus. D'autant plus que s'il y a une grossesse, c'est un impact sur son corps à elle. C'est ses prises de décision à elle qui vont entrer en jeu à ce moment-là.
Mais la pilule d'urgence.
La pilule d'urgence. Mmh. Eh ben, la pilule d'urgence, c'est quand on se rend compte qu'il y a un moment, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme on le voulait ou on n'y a pas pensé. Parfois, le rapport, il n'est pas prévu. Sous l'impact des hormones, parfois, on se rapproche, il y a du désir sexuel qui se manifeste dans le corps. Ça nous déconnecte un peu de toutes les pensées sécuritaires, j'ai envie de dire, qu'on devrait avoir en tête, à se dire, est-ce qu'on a un préservatif, il faut qu'on le mette bien en avant, ceci, cela. Bah, non, il y a des fois, on est vraiment dans le moment présent, à faire en fonction de nos désirs, de nos envies, et c'est après coup qu'on s'en rend compte. Moi, je trouve ça rassurant, en fait, justement, quand les ados vont chercher une pilule d'urgence, ça veut dire qu'il ou qu'elle, parce que ça peut être le garçon qui va le chercher pour sa partenaire, mais ça veut dire qu'il ou qu'elle se sont posé la question, en fait, de comment je me protège, même si c'est après coup, en fait, c'est de la protection. Et sur les IVG, alors, tout le monde ne va pas être d'accord avec moi, mais j'ai ce même point de vue, c'est de me dire, une ado qui fait la démarche d'aller consulter pour une IVG, ça veut dire qu'elle se pose la question de ce qu'elle veut, de ce qu'elle ne veut pas, et qu'elle est en capacité de mettre des choses en place pour s'écouter elle-même, en fait. Donc, ce n'est pas forcément négatif. C'est de rappeler aussi que les IVG, ça concerne les ados, mais aussi les femmes adultes, que ça concerne énormément de femmes en France.
Oui, pour rappeler quand même quelques chiffres, sur en moyenne 200 000 IVG par an, seulement 15 000 concernent des mineurs. Donc ça reste quand même une grande minorité.
Hein, tout à
et
fait.
Qu'on peut avoir cette représentation que ce sont surtout des mineurs qui ont recours à l'IVG, ce qui n'est pas le cas.
Oui. Et c'est de rappeler qu'en tant que femme, c'est nous qui avons quand même cette charge de la contraception et qu'on n'est pas des superwomen. Donc il peut y avoir des ratés pour diverses raisons, une pilule mal prise, on n'a pas pensé à la contraception, c'était pas prévu. Mais en fait, on a cette marge de manœuvre-là. Et heureusement, en France, on a ces possibilités-là, pilule d'urgence.
Ah, mais je suis d'accord. C'est juste savoir que ce ne soit pas répétitif, en fait. C'est juste.
Oui, dans la question de la prévention, d'avoir un discours sur l'ensemble des méthodes, des outils de contraception et de protection. En tout cas, selon vous, Sandrine, voilà, il y a trop l'accès sur la contraception et pas assez sur la protection et la protection des maladies sexuellement
oui.
transmissibles.
Ce qui m'interpelle aussi, c'est parce que j'entends les copines de mes filles, enfin, qui ont déjà eu des IVG, qui prennent la pilule d'urgence régulièrement, et je me dis quel impact ça peut avoir aussi sur leur corps. C'est juste ça. Après, effectivement, c'est bien. Heureusement qu'on a tout ça aujourd'hui. C'est juste quel impact ça peut avoir.
Alors, l'impact sur le corps, enfin, moi, j'ai envie de vous dire, il n'y en a pas. Moi, ce qui me pose comme question, là, c'est l'impact psychologique. Et sur des situations comme ça, où on a une ado qui va multiplier les IVG ou les prises de pilules d'urgence, là, je suis d'accord avec vous. On s'inquiète parce qu'on se pose la question des conditions des rapports à chaque fois, de son consentement, de sa capacité à poser ses limites, à s'écouter, se protéger elle-même, en fait. Après, une IVG, en fait, pour une mineure, il y a une consultation suite à l'intervention.
Qui est obligatoire.
Obligatoire pour notamment parler de la contraception, en fait, et voir où elle en est.
Mais je peux imaginer que pour un ado, se rendre dans une pharmacie ou même dans un planning familial pour demander une pilule d'urgence ou autre, voilà, que ce n'est pas forcément simple aussi de faire cette démarche-là.
Complètement.
Donc comment, en tant que parent, voilà, on peut... d'où l'importance peut-être de parler de la sexualité pour pouvoir libérer et que l'ado ne se retrouve pas seul à vivre ça, ce qui peut susciter honte, culpabilité, voilà, plein d'émotions difficiles.
Alors, il y a des interventions scolaires. Il y a des séances d'éducation à la sexualité qui, je le rappelle, normalement sont obligatoires à raison de deux séances par an par tranche d'âge tout au long du cursus scolaire. Et elles sont généralement faites par les centres de planification. Donc, ces centres où on va pouvoir avoir accès à la contraception ou par le planning familial, qui est une autre association et qui, elle, va plus être dans la mobilisation pour les droits des femmes, l'égalité, mais qui fait ce type d'intervention aussi. le fait que ces institutions, que ces associations se déplacent en fait dans les établissements scolaires, du coup elles sont identifiées par les ados. Souvent on laisse les coordonnées, on explique où c'est. Ils font en sorte toujours que ce soit les personnes qui sont sur le territoire qui interviennent dans l'établissement concerné. Comme ça, ça permet déjà de créer un lien. Et après, dans les établissements, je trouve que les infirmières scolaires essayent d'être aussi proches des élèves pour favoriser aussi le dialogue sur ces questions-là.
En tout cas, dans tout ce que vous venez de dire, à la fois Sandrine et vous, Sonia, c'est aussi l'importance en tant que parents d'informer les enfants, filles et garçons, sur toutes ces questions-là. Voilà, que la contraception féminine ne concerne pas que les filles, le préservatif ne concerne pas que les garçons. Et aux garçons, parler de pilules d'urgence, d'IVG et autres modes de contraception. Et aux filles, voilà, de parler du préservatif. Voilà.
Complètement, parce que les garçons, dans le cadre d'un couple hétérosexuel, ils ont leur part à prendre dans la contraception. Ça peut être ne serait-ce que financièrement, par exemple, parce que la contraception, ça peut coûter de l'argent. Donc, il peut y participer financièrement, d'aller la chercher à la pharmacie, enfin, oui, et même de s'y intéresser parce que, bah, par exemple, si c'est une pilule, ça veut dire que c'est à la jeune femme d'avoir cette charge d'y penser, en tout cas, ou de mettre des choses en place pour ne pas l'oublier. Ça peut être aussi son partenaire qui est ce rôle-là de lui rappeler. Enfin, en tout cas, l'homme peut vraiment avoir à différents niveaux une place dans la contraception des femmes.
Sonia, alors pour voilà, aussi essayer d'un peu mieux comprendre ce qui se passe et toutes les questions que vivent les adolescents, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là de l'adolescence ? Parce qu'il y a des changements à différents niveaux.
C'est une grosse période de changement qui dure plusieurs années. Ça va être des changements dans le mode de relation, notamment avec nos parents. On va chercher à partir de la fin de la primaire à s'autonomiser, à penser différemment de nos parents. Souvent d'ailleurs en fin de primaire et on commence à voir des pré-ados. Alors je sais pas comment on les appelle, des pré-ados. Il y en a en sociologie où on les appelle des ados naissants. En tout cas, on voit ces CM1, CM1, CM2 qui vont vouloir décorer leur chambre à leur goût, regarder leur programme télé. Enfin, du coup, ils commencent vraiment à s'autonomiser, à se différencier des parents, à pas forcément penser comme eux. Et il y a aussi tous les modes de fonctionnement qui vont changer dans les relations. Du coup, l'adolescent va s'identifier de plus en plus à un groupe de pairs, donc penser comme ses amis, agir et se faire reconnaître par son groupe d'amis. Il y a tous ces changements aussi corporels qui sont très importants, qui vont commencer aussi parfois des CM1, CM2, qui vont continuer au collège puis au lycée et qui vont continuer même parfois après le lycée dans ces changements corporels. Alors c'est important de parler des règles en effet, de faire attention à ne pas en parler trop tard, moi je trouve, aux filles et aux garçons, hein, parce que les garçons se posent beaucoup de questions et ça peut leur faire peur aussi. Parce que parfois on les met de côté et plus on les met de côté, plus il y a quelque chose d'assez obscur autour de ces questions. Cette question des règles, donc c'est...
Du corps des femmes.
Voilà. Tout à fait.
Eux aussi de l'information sur comment fonctionne le corps des femmes.
Tout à fait. Et tout ça, ça participe à l'égalité entre les filles et les garçons. Hein. Donc c'est important qu'ils aient aussi leur place, notamment dans ces séances ou dans ces discussions, qu'on ne les mette pas de côté. Mais en tout cas, les règles, c'est en parler peut-être un peu plus tôt aux jeunes filles, notamment dès la primaire, parce qu'il y en a quand même pas mal qui ont déjà leurs premières règles en primaire. Et parfois, jamais elles en ont entendu parler. Donc dans ce cas-là, oui, c'est vécu comme quelque chose de... qui peut être même traumatisant. En tout cas, on ne comprend pas du tout ce qui nous arrive. Et moi, je trouve qu'on oublie beaucoup de parler en fait des pertes blanches à ce moment-là, parce que ces pertes blanches, donc ces sécrétions qui vont sortir du vagin, et bah ça se passe aussi au moment de la puberté, et c'est un peu en amont des règles, et c'est très peu abordé. Donc là, elles se posent des questions. Il y en a qui, moi j'ai déjà entendu régulièrement des jeunes filles me dire, mais j'avais l'impression que je me transformais, je comprenais pas ce qui sortait de moi. Mais c'est vrai, il y a un moment on se demande en fait quels sont ces liquides qui sortent de notre corps. Et quand on parle de toutes ces questions avec nos ados, c'est d'être le plus clair possible. Parce qu'il y a un moment, ils veulent des réponses claires à leurs questions, et si on ne donne pas des réponses claires, ils vont aller les chercher ailleurs. Et notamment, bah, maintenant, il y a Internet qui peut être un outil fabuleux, hein, où on peut trouver de très bonnes informations comme de très mauvaises. Et parfois, ils n'ont pas le temps de faire le tri des infos. Et parfois, bah, du coup, ces infos, on va les chercher dans la pornographie, parce que ça peut être une source d'information, notamment quand on se pose la question: est-ce que mes poils poussent au bon endroit? Est-ce que c'est normal que j'en ai sur les petites lèvres, sur le sexe, où est-ce que ça doit pousser? Est-ce que c'est normal qu'il y en ait sur la poitrine? Enfin, tout ça, si c'est pas abordé, il y a un moment, on se pose la question de notre normalité et on veut aller chercher ces réponses-là. On va se débrouiller seul et aller sur Internet.
Bien sûr. En tout cas, là, ce que vous nous dites, Sonia, c'est que vraiment, l'adolescence, c'est un processus qui est progressif, qui va s'étaler dans le temps. Et déjà, la première étape, c'est de parler des changements du corps, des règles, des sécrétions, peut-être des premières érections pour les garçons.
Pour les garçons, les érections, elles sont là depuis qu'ils sont tout petits, mm-hmm. tout bébés. Ces érections, elles sont quand on les change, quand il y a des différences de température, quand ils sont contents. Les petits garçons vont se mettre en érection. Ils ont aussi les érections matinales. Par contre, oui, à partir de l'adolescence, ils vont avoir les premières éjaculations. Chose qu'ils appréhendent énormément aussi. Hein. Et ça, je trouve qu'on en parle pas suffisamment avec eux, mais moi je le vois en classe de CM2, ils ont beaucoup de questions autour des éjaculations, et une des questions systématiques, c'est est-ce que ça fait mal ?
Oui, parce qu'ils ont pu voir des images où on voit sur les visages des crispations, en tout cas les images pornographiques, quand on regarde les visages, ça reflète pas forcément quelque chose de l'ordre du plaisir ou...
Tout à fait. Mmh. Une vidéo porno, si vous coupez le son, vous pouvez voir en effet des visages où vous savez pas si c'est de la douleur ou de la satisfaction, et ça a l'air plutôt d'être des visages qui montrent quelque chose de l'ordre de la tension, de la douleur. Donc là, c'est de leur expliquer déjà que non, ça fait du bien, leur expliquer ce que c'est. Il se pose vraiment la question quelle texture, quelle quantité, parce que si on s'est référencé à la pornographie, on a des quantités qui sont...
Démesurées.
Complètement démesurées, voilà. Alors que de leur expliquer que c'est la moitié d'une petite cuillère, puis des fois ça peut même être moins. Leur expliquer que ça peut avoir des couleurs différentes, blanc, transparent. Leur expliquer de quoi c'est composé. Tout ça, c'est important vraiment de l'aborder avec l'adolescent pour le rassurer en fait.
Ensuite, si on prend une suite chronologique, selon vous, quel serait pour des parents le prochain thème, les changements du corps, les règles, les premières éjaculations. Après, qu'est-ce qui serait à aborder ?
En parallèle, je pense qu'il y a les relations amoureuses aussi. Parce que, même si les enfants sont amoureux depuis la maternelle, en fait, mais c'est... En primaire, on voit bien, il y a déjà des grandes histoires d'amour qui se passent. Et en fait, c'est de continuer à aborder ces relations amoureuses avec l'adolescent. Sachant que l'adolescence, en fait, c'est une période aussi où il se passe beaucoup de changements au niveau du cerveau. En tant que parent, c'est de comprendre que notre ado, il fonctionne plus de la même façon, il ne réagit plus de la même façon. Il a changé de fonctionnement. Il y a énormément de connexions, en fait, qui meurent chaque seconde et il y a d'autres connexions qui se renforcent. Donc, notre ado, il peut avoir des réactions complètement démesurées quand on lui parle notamment de relations amoureuses ou de sexualité. Et lui-même ou elle-même ne sait plus très bien gérer ses émotions parce que tous ces changements le perturbent, la perturbent. Et il faut le temps que tout ça se stabilise. Donc ça, c'est déjà important qu'en tant que parent ou en tant que tuteur, tutrice d'ado, on ait ça en tête à se dire c'est complètement normal qu'il y ait ce gros changement de comportement chez lui ou chez elle. Et pour revenir sur les relations amoureuses, là, l'idée, c'est de continuer à discuter avec lui, avec elle, de ça fait quoi quand on est amoureux dans le corps et de repartir du corps aussi, parce que c'est des choses qui se passent dans le corps. La sexualité, en fait, ça, c'est très important, c'est avant tout du ressenti. Si je parle de ressenti, ça veut dire que je pars de moi. Ça veut dire que j'écoute mon désir. Du désir sexuel, je suis pas sûre que ce soit dans la tête. Mais en tout cas, c'est avant tout dans le corps. C'est je sens que j'ai chaud, que mon rythme cardiaque accélère. Ces sensations de désir sexuel, la première fois qu'il et qu'elle les ressentent, c'est au moment de la puberté. Sixième, cinquième. Sauf que c'est des sensations qui n'ont jamais expérimenté. On sait pas d'où ça sort. Par contre, on se rend compte que quand le mec ou la nana que je kiffe, pour reprendre leur terme, que je kiffe trop, m'approche ou me parle, je me mets à rougir, j'ai chaud, j'ai mon rythme cardiaque qui accélère. Et vu que je suis dépassée par ces sensations-là, souvent, ils savent plus trop bien parler. Et quand on leur parle de ça, ils disent, moi, ça m'arrive tout le temps. Et c'est de pouvoir reposer des mots avec eux là-dessus en se disant, ça, c'est du désir, c'est de l'attirance. Donc je suis attirée par cette personne. Après, le consentement, ça se passe notamment au niveau de la tête, c'est de se dire, ok, je peux être attirée, mais est-ce que j'ai envie juste de continuer à parler avec cette personne, la toucher ou pas ? Enfin, savoir après moi où je mets ma limite avec cette personne. Déjà, de poser des mots et de rassurer sur ce qui se passe dans le corps, toutes ces nouvelles sensations qui sont agréables, mais qui peuvent être aussi désagréables quand elles sont assez explosives et qu'on ne comprend pas trop d'où ça vient, c'est rassurant et ça permet de rentrer tranquillement dans la sexualité. Ça permet aussi d'aborder les étapes de la sexualité, parce que la sexualité, pour moi, c'est un mot qui est assez immense et ça commence déjà par... par le rapport à notre propre corps et puis le rapport au corps de l'autre. Et le rapport au corps de l'autre, ça va être les premières étapes de la sexualité, c'est comment je touche l'autre au niveau, enfin sur les caresses affectives, comment on se prend dans les bras, comment on se touche au niveau de l'épaule sans aller plus loin. Puis après, il y aura des caresses plus sensuelles. Est-ce que je laisse l'autre me toucher les jambes, puis après le ventre, tout en étant habillée? Et puis peut-être plus tard, est-ce que je laisse l'autre me toucher au niveau des fesses, au niveau de la poitrine, au niveau du torse? Enfin, et à tous ces moments-là, c'est de rappeler qu'on peut poser nos limites, retirer la main, dire oui, dire non. Et peut-être qu'un jour, on dit oui et que le lendemain, on dit non. Ou qu'il y a une heure, on disait non et qu'on a rechangé d'avis. Enfin, en parler comme ça, tranquillement, et parler notamment de ces étapes des caresses affectives, des caresses sensuelles, et après, peut-être des caresses sexuelles, ça permet de voir qu'il y a des étapes et que ces premières étapes, elles sont tout aussi sympas, en fait, que le rapport sexuel qui serait le final. Et en plus, c'est pas forcément le final. Enfin, ça peut très bien s'arrêter sur un câlin sensuel, même tout habillé, qui soit hyper sympa, et on s'arrête là, et ça nous convient très bien à tous les deux.
Oui, que finalement, quel que soit le désir ressenti, il n'y a pas d'obligation, et l'importance d'inviter les ados à être vraiment connectés à ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils ne souhaitent pas. Cette question des limites, ce que vous disiez, est vraiment importante. Quand vous parliez de tout ça, je pensais à la question du premier baiser. Comment on peut parler, voilà. C'est souvent une étape importante. À mon époque, on disait la première galoche.
C'est, pour moi, ça fait partie notamment de ces étapes des caresses. On peut en parler à ce moment-là. Il y en a qui vont différencier les façons de se faire un bisou, juste un smack, de se faire un bisou avec la langue. Je trouve qu'on peut en parler simplement sur le moment où on parle des caresses affectives, par exemple, ou des caresses sensuelles. C'est vraiment de voir que c'est une étape qui suit et de leur poser des fois la question, est-ce qu'il y a des étapes d'ailleurs avant ce premier bisou ? Parce qu'on fait rarement un premier bisou sans qu'il se soit rien passé avant. On s'est forcément approché avant. Donc parler aussi toutes les phases d'approche, de séduction, ou d'ailleurs les caresses affectives entrent en jeu sur ces phases de séduction. Au final, on peut prendre le temps de toutes ces caresses parce qu'elles sont vraiment sympas. Et les ados, en plus, savent vraiment jouer et prendre le temps de ça. Parfois, contrairement aux adultes qui, par manque de temps, ont oublié en fait, que toutes ces étapes de la sexualité étaient très importantes, nos ados savent le faire, donc c'est à nous de renforcer aussi peut-être ces étapes, enfin dans notre discours en fait, l'importance de ces étapes-là.
Alors Sandrine, vous avez bien souligné l'importance pour vous que vos filles aient une première fois qui se passe bien pour elles. Voilà, comment le parent peut accompagner son enfant sur cette question-là?
Alors la question de la première fois, pour moi, elle est tout aussi importante chez les garçons que chez les filles. À savoir, les garçons se mettent beaucoup de pression en fait autour de la première fois. Parce que pour les filles et pour les garçons, on entend quand même trop souvent que cette fameuse première fois va faire mal et on va saigner. Alors, quand on est une fille, c'est catastrophique d'entendre ça. Et quand on est un garçon, ça nous met une sacrée pression parce qu'on se dit, dans un couple hétérosexuel, dans tous les cas, je vais lui faire mal et je vais la faire saigner. Enfin, du coup, comment je m'y prends pour que ça se passe bien? Enfin, et on lui donne aucune clé. C'est débrouillez-vous avec ça. C'est que filles et garçons puissent les rassurer sur ce premier rapport. Déjà, expliquer qu'on n'est pas obligé de saigner. Et ça, c'est très important. Je le rappelle, il n'y a que 30% des femmes dans le monde qui saignent au premier rapport. Ça veut dire qu'il y en a une très forte majorité
70%, ouais.
qui ne saignent pas au premier rapport.
Oui, puis c'est qu'est-ce qu'on entend par saigner? Parce que moi, j'ai en tête des jeunes filles qui imaginaient que ça allait être la mare de sang, alors que parfois, une goutte.
Oui, ou une trace de sang, voilà, dans la culotte, et on s'en rend compte quand on va aux toilettes plus tard, ou voilà, ça a simplement fait à peine une goutte. Enfin, oui, c'est aussi de dire que ça peut même passer inaperçu et qu'on va pas forcément avoir mal au premier rapport. Et du coup, on va expliquer pourquoi. Vu qu'on nous a mis en tête là cette belle idée qu'on allait avoir mal et qu'on allait saigner. Forcément, on l'appréhende, ce premier rapport. Donc, qu'est-ce qui se passe? À ce premier rapport, on a, dans l'idéal, il y a du désir sexuel, j'ai envie. Donc, mon corps, sensation de chaleur, accélération du rythme cardiaque, ça chauffe au niveau du sexe, pour les filles, pour les garçons. Les garçons se mettent en érection. Les filles vont se mettre en érection aussi au niveau du clitoris. Et surtout, le vagin va se dilater et lubrifie à l'intérieur. Il ne faut pas plus de temps aux filles qu'aux garçons pour être excitées sexuellement. Tout ça, ça se passe en moins entre 1 et 2 minutes pour les filles et pour les garçons. Donc là, ça se passe bien, on est sur la phase de caresse, on a très envie. Sauf que on sent que ce premier rapport va arriver et en tête, on a des pensées angoissantes qui commencent à arriver, à se dire « Attention, tu vas avoir mal et tu vas saigner ». Donc au final, il y a quelque chose de l'ordre de l'angoisse, de la peur qui arrive. Et à savoir, la peur et l'angoisse, ça l'emporte toujours sur, notamment sur cette sensation de détente et ces sensations agréables qui se passent dans le corps. C'est de la pure protection, et heureusement, peut-être qu'on est fait comme ça. Donc, dans ce cas-là, le corps va couper assez rapidement ce circuit de lubrification. Et vu qu'on a peur, quand on a peur, on se contracte corporellement, automatiquement.
On se referme.
Du réflexe, voilà, on se referme. Et s'il y a une contraction corporelle, au niveau du vagin, c'est entouré par plein de muscles qu'on appelle le périnée. Le périnée, lui, c'est un des premiers, qui va tout resserrer et se refermer en se disant, il y a quelque chose qui nous fait peur. On ne sait pas quoi, mais en tout cas, il y a quelque chose de potentiellement dangereux. Donc, souvent, c'est simplement cette contraction au niveau du vagin, plus on bascule un peu le bassin, on se renferme. Cette contraction au niveau du vagin, cette chute de la lubrification qui fait que la pénétration devient douloureuse parce qu'en effet, le vagin s'est refermé. Et dans ce cas-là, on ne cherche pas à forcer parce que le corps enregistre tout. Pour les filles et pour les garçons, c'est de se dire « Ok, en fait, c'est qu'il y a un moment, là, faut... » L'étape, c'est on reprend l'étape d'avant de se détendre, en fait, de se refaire des papous, des câlins, des caresses pour... s'apaiser, se remettre en tête qu'il n'y a pas de raison qu'on ait mal. Plus on va être détendu, plus le périnée va se détendre, plus le vagin va se détendre. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait de douleur ni de saignement. Et les saignements souvent sont expliqués par la présence de l'hymen. Ouais. Je me permets juste de faire un petit point sur là-dessus. L'hymen, c'est un anneau à l'entrée du vagin. Donc vraiment un anneau, ça veut dire que cet anneau, en fait, il va évoluer tout au long de la vie de la jeune fille. Ce qui fait qu'à arriver à l'adolescence, peut-être que cet anneau de peau, il est peu présent ou plus présent. Donc il n'y a pas forcément cette idée qu'il va se déchirer. Il va peut-être simplement rien se passer. Et en effet, parfois, cet anneau de peau, il peut être un peu plus épais ou constitué un peu différemment. Et là, oui, il peut y avoir cette petite sensation de déchirure, mais qui peut ne pas être ressentie aussi.
Il peut arriver aussi que l'hymen, moi, ma grande fille, ça c'est arrivé. On l'a fait opérer parce que on l'a su avec les tampons. Hein. Ça passait pas, elle pouvait rien rentrer. Donc, elle a eu une petite intervention parce que justement, c'était trop rigide. Faut le savoir, ça peut arriver chez certaines ados.
Ça reste des cas rares, mais oui. En effet, oui, c'est à garder en tête. C'est pour ça que c'est important de pouvoir consulter, d'en parler notamment. C'est de se dire, quand on est adolescente, on a le droit d'aller voir un ou une gynécologue ou une sage-femme, ne serait-ce que pour discuter. Et si on a des questions ou des incompréhensions comme ça, peut-être qu'elle peut simplement regarder sans ausculter, mais regarder, nous rassurer. C'est important de rappeler à nos ados que même avec des professionnels médicaux, le professionnel doit nous demander notre consentement. Et en tout cas, on a le droit de dire oui ou non. Si on n'a pas envie d'être ausculté, on peut refuser.
Alors, vous parlez de cette question de la visite chez le gynéco. Est-ce que il y a des questions de parents que j'entends régulièrement, à quel moment emmener ou donner le contact de la gynéco ou d'une sage-femme?
Quand le premier contact est assez tôt, c'est toujours intéressant parce que c'est une tierce personne, ça fait un interlocuteur de plus, ça permet de discuter sans que le parent soit là, et au moins on ose y retourner après, pour parler de contraception, pour parler premier rapport... Ça peut être simplement de la discussion et de rappeler que même si on y va pour une contraception, il n'y a pas besoin d'un examen gynécologique. Juste dans la discussion, on peut avoir la délivrance d'une contraception.
Oui, puis là, dans ce que vous dites, j'entends la question de l'autonomie. Vous disiez y aller seul, l'importance que le parent rende autonome aussi son enfant pour respecter aussi la pudeur, l'intimité. Donc peut-être donner les coordonnées puis laisser l'ado gérer, c'est peut-être une bonne solution.
Tout à fait. Ou l'accompagner, mais pas aller jusqu'au bout avec lui.
Ou lui demander de quoi il a envie.
Tout à fait. Et là on est purement dans ces notions de consentement et de limites pour que ça soit l'ado qui pose lui-même ou elle-même ses limites.
Vous nous disiez, Sandrine, vous n'avez pas abordé la question de la masturbation et que vos filles n'ont pas abordé cette question-là avec vous. Par rapport à cette question-là, comment peuvent faire les parents?
L'idée de parler de la masturbation, c'est de pouvoir aborder la notion de plaisir. Je pense, déjà dans un premier temps. Expliquer que la masturbation, ça permet d'écouter son corps, enfin, savoir comment fonctionne notre corps, savoir s'écouter sur son rythme, sur nos envies. Après, je comprends que ça puisse être délicat à aborder en tant que parent. C'est une étape de l'autonomisation, en fait, de l'adolescent, comment on se positionne. Après, les ados en parlent aussi beaucoup entre eux. Ouais, moi je pense que c'est ça, c'est s'ils ont envie d'en parler, on laisse venir. Après, attention, c'est de se dire, pareil, on fait attention aux discours stéréotypés et on considère les filles et les garçons de la même façon. Donc peut-être que si dans une famille on parle de la masturbation avec le fils, et ben de pas oublier d'en parler avec la fille et de comprendre qu'en tant que parent, on peut avoir un discours qui autorise ou qui interdit ou qui induit en tout cas ce type de comportement. Donc c'est vraiment veiller à être sur quelque chose d'assez ouvert là-dessus, que ça soit pour la fille ou pour le garçon, parce que les filles comme les garçons pratiquent la masturbation. Le premier objectif, c'est de se faire plaisir. Un des autres objectifs, c'est de savoir s'écouter et de comprendre comment on fonctionne en termes de plaisir sexuel. Pour moi, en fait, il y a un impact assez important, notamment sur la sexualité du couple ensuite. C'est que il y a quand même cette idée reçue qui perdure. Cette idée, c'est aux garçons de savoir comment donner du plaisir à la partenaire dans le cadre des couples hétérosexuels. Bah non, en fait, c'est chacun à son corps, chacun fonctionne différemment et c'est à chacun de savoir comment il ou elle fonctionne pour pouvoir guider l'autre. Mais si on ne sait pas comment on fonctionne nous-mêmes, on peut l'apprendre notamment dans la masturbation, mais en tout cas, si on ne sait pas comment on fonctionne nous-mêmes, ben, il y a un moment, on va pas pouvoir guider l'autre. Alors si, après, dans l'expérientiel, à deux, on va pouvoir guider l'autre sur ce qui nous va, ce qui nous va pas. Mais c'est important de partir de soi. Et l'autre ne peut pas savoir comment on fonctionne, même dans un couple homosexuel. Deux femmes ensemble, elles fonctionnent différemment. Donc, en fait, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on a le mode d'emploi parfait, voilà, de la femme. Non, ça fonctionne pas comme ça. On est toutes différentes. Donc, on part de soi pour guider l'autre.
Vous nous aviez dit aussi, dans l'épisode sur la sexualité des enfants, lorsque le parent surprend des pratiques masturbatoires, voilà, l'importance aussi là de comment le parent va réagir. J'imagine que c'est pareil aussi pour les ados, voilà, que le parent fasse attention à ce moment-là de ne pas culpabiliser, dramatiser ou de ne pas salir. Voilà, des parents un peu par réflexe qui peuvent dire « non, c'est sale, il ne faut pas faire ça ».
Tout à fait.
D'être attentif aussi à ça.
Oui, aux mots qu'on va employer, à se dire que la plupart du temps, les adolescents, ils ont un peu délimité leur lieu d'intimité ou le moment où il va y avoir les masturbations, enfin, pour pas être surpris par l'adulte. Donc c'est vraiment de faire attention, si on les surprend, bah, peut-être s'ils nous ont pas vus, de repartir assez vite et de se dire non, en fait, c'est leur moment, c'est leur lieu et pas forcément d'en discuter derrière s'ils ont pas envie d'en discuter.
Oui, donc le respect de l'intimité.
Tout à fait.
Finalement, comme Sandrine, d'attendre que les questions viennent. Voilà, on répond aux questions, mais on ne va pas forcément amener le sujet.
Tout à fait.
Alors ça, c'est quand même la grande question pour les parents, la question de la pornographie. Vous en avez parlé presque d'ailleurs tout de suite, Sandrine. C'est quelque chose qui inquiète beaucoup les parents, que leurs enfants et les ados soient consommateurs d'images pornographiques. Vous nous aviez d'ailleurs dit que la première confrontation, généralement pas voulue, c'est en effet vers la fin du primaire. Comment les parents peuvent gérer cette question-là, prévenir sur cette question des images pornographiques?
Alors, je pense que c'est un sujet qui est important à aborder avec l'enfant. Alors déjà, garder en tête que la pornographie, ça a modifié la sexualité de tout le monde. Nous, adultes, on n'a pas grandi avec. Donc ça a impacté notre sexualité un petit peu violemment d'un seul coup. Pour les enfants et nos ados actuels, ils ont grandi avec cette pornographie. Pour eux, c'est aussi une source d'information. Et c'est là, moi, où ça me pose question. C'est de se dire que si l'éducation à la sexualité est bien faite, si on a réussi à répondre à leurs questions ou à leur proposer des supports pour répondre concrètement à toutes les questions qui se posent autour de la sexualité, ils n'auront pas besoin d'aller chercher ces infos sur le net et de se retrouver confrontés à des images pornographiques. Donc, en tant que parent, c'est déjà d'ouvrir le dialogue. Si on ne se sent pas en capacité, de déléguer à une autre personne ou de trouver avec notre ado un lieu d'écoute autour de la sexualité. Et si on peut, c'est d'expliquer que dans la pornographie, c'est de la mise en scène, c'est pas la réalité. Pour le rassurer, parce que ça peut faire très peur quand on est adolescent et qu'on voit la taille des sexes dans la pornographie notamment. En fait, les sexes masculins font au moins 20 cm, c'est pas du tout la taille moyenne du sexe des hommes. Le volume d'éjaculation est inadapté. Les corps sont préparés aussi, peuvent être maquillés, donc parfois il n'y a pas de poils, du coup on peut se poser la question si on est normal, si on a des poils. Il y a aussi toute la mise en scène. Il y a une temporalité qui est différente. Parfois, il n'y a pas toutes ces étapes de caresses affectives, caresses sensuelles. Enfin, du coup, il y a tous ces codes que l'adolescent n'a pas forcément en tête. Et du coup, si on le prend en première source d'information, oui, là, on va se retrouver complètement perdu.
Du coup, justement, Sonia, quels peuvent être, est-ce que vous avez des livres, des films, des sites internet recommandés pour permettre de transmettre toutes ces infos aux ados et puis que ça soit des outils un peu de médiation aussi. C'est vrai que quand on est parent, vous l'avez bien dit, hein, Sandrine, parler de sexualité, ça amène à parler de sa propre sexualité, même si on n'en parle pas directement. En tout cas, ça vient aussi nous questionner par rapport à ce qu'on a reçu dans sa propre éducation, peut-être ses propres expériences, parfois faciles, heureuses, et puis parfois plus difficiles, plus compliquées. Évidemment, la manière dont on en parle aux ados est empreinte déjà de tout son propre vécu. Voilà, quels peuvent être les outils un peu plus concrets sur lesquels les parents peuvent s'appuyer ?
Alors, sur les livres, pour les primaires, il y a le Zizi sexuel de Titeuf. Ce que j'aime beaucoup dans cette approche, c'est que ça rend ludique, en fait, le discours autour de la sexualité. Ils le lisent facilement et ils rigolent beaucoup en le lisant. Donc, ça passe des infos de façon tranquille, je trouve. Ensuite, après, pour les... Alors là, c'est vraiment au niveau du lycée. Il y a un livre qui s'appelle Make Love, qui répond de façon très concrète à toutes les questions qu'on se pose autour de la sexualité. Il y a notamment des photos à l'intérieur de ce livre. Donc, il y a aussi des visuels qui sont très bien faits. Après, il va y avoir... Alors, sur Internet, il y a une multitude de sites. Je sais qu'à un moment, il y avait le site Caresse Sensuelle qui, lui, proposait des petites vidéos bien faites et puis des petites explications. Dans les établissements scolaires, je sais qu'en Essonne, par exemple, le conseil départemental distribue un petit manuel en fait autour de l'éducation à la sexualité, complètement adapté pour les collégiens.
Oui, là, en vous entendant, moi, là, il y a Isabelle Filiosa qui vient de sortir aussi deux livres qui sont S'expérience, qui s'adresse aux ados, et puis Amour, sexe, les réponses aux questions des ados. Il y a aussi Catherine Dolto qui a un dico pour ados, je crois, qui répond aux questions de la sexualité, puis plus largement autour de l'adolescence. Donc, il existe en effet aujourd'hui pas mal de ressources. Dans tout ce que vous nous avez dit, Sonia, plusieurs fois vous avez souligné l'importance de sortir des stéréotypes de genre et puis dire voilà, des idées reçues autour de la sexualité des ados et puis même des adultes. Hein, mais voilà, on entend encore beaucoup aujourd'hui, un garçon a toujours envie de sexualité, la première fois ce que vous nous disiez ça fait mal, la pilule fait grossir, ou les garçons sont excités par la manière dont les filles sont habillées. Voilà, que c'est important aussi en tant que parent de désamorcer, détricoter tous ces stéréotypes.
Complètement. Et notamment là sur cette idée reçue de les garçons ont toujours envie. Non, en fait, est-ce que c'est pas simplement qu'on autorise les garçons plus facilement à la sexualité en général et que les filles, il y a ce discours où on les fait patienter, attendre. Si on a le même discours pour les filles et pour les garçons, on se rend compte que les filles osent du coup parler de leurs envies, de leurs désirs, se positionner différemment, penser à elles. Ça veut pas dire en fait qu'il y aura plus de rapports sexuels, ça veut simplement dire qu'on ose partir de soi, qu'on ose dire ses envies, ses désirs. Et les garçons, quand on dit, moi je me dis toujours, ils ont plus envie de sexualité, la sexualité c'est un mot très large, ils ont peut-être envie de câlins, de bisous, et pas forcément de plus aussi, c'est de se dire, un garçon, ça... Quand un garçon en érection n'a pas forcément envie d'un rapport sexuel, il veut pas forcément une pénétration. Parfois, il veut simplement être pris dans les bras, un bisou par son chéri ou sa chérie, et ça s'arrête là. C'est une réaction de son corps, parce que oui, il y a de l'attirance, il y a du désir sexuel, mais c'est pas le désir d'un rapport sexuel. Sauf que chez le garçon, c'est visible, il y a cette érection. Chez la fille, c'est un peu moins visible parce que son sexe, il est entre les jambes. Il n'est pas caché. Hein. Ça aussi, c'est quelque chose. Alors, ça, c'est, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est indispensable à dire. Il faut veiller dans notre discours à redonner sa place au sexe féminin. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrête de dire que le sexe des femmes, il est caché, il est à l'intérieur. Non, en fait, le sexe des femmes, il est simplement positionné différemment. Il est entre nos jambes. Il y a une grande partie de notre sexe qui est à l'extérieur, avec notamment le clitoris qui sert au plaisir sexuel. Et oui, il y a une partie de notre sexe qui est à l'intérieur, mais comme pour les garçons. Donc, c'est aussi dans le discours faire attention, parce que si ce sexe, il est caché, il n'est pas visible, il y a un moment, ça donne de l'invisibilité aussi à la sexualité des femmes.
Dans tout ce que vous nous avez dit, Sonia, voilà, pour les parents qui peuvent être en difficulté, vous nous avez dit voilà, tous ces outils, les ressources, le planning familial, les centres de planification, les infirmières scolaires, les gynécologues, les sages-femmes, toutes ces personnes, ressources. Quels peuvent être les repères pour les parents? À partir de quel moment il y a un problème?
Moi, je pense que si on détecte qu'il y a un changement assez important en fait dans le comportement de notre ado, dans ce cas-là, c'est de se poser la question en fait de ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il y ait un changement brutal du comportement ou assez fort en tout cas. Ça peut être aussi dans le rapport au corps, voir si l'ado se laisse approcher ou si c'est plutôt quand on repère des réactions en fait de repli et de protection soit systématique, là ouais, peut-être s'interroger, se poser également la question de ce qui a pu lui arriver ou de ce qu'il ou elle a pu voir, entendre. C'est important.
Ok. Je recommande souvent des lectures à mes patients. Sonia, alors vous nous avez déjà donné quelques références. Est-ce que vous avez... En tout cas, là, moi, je pense à un livre dont on avait déjà parlé, qui est « Parlez-leur d'amour et de sexualité, l'éducation sexuelle s'apprête » de Jocelyne Robert, qui est tant pour les enfants que pour les ados, qui est vraiment une bible.
Oui. Ah oui, je le recommande également.
L'adolescence, c'est un temps de construction de la vie amoureuse et sexuelle. Vous nous l'avez bien dit, Sonia et Sandrine. Voilà, c'est un temps de découverte de soi, de l'autre, et un temps d'exploration aussi qui est extrêmement important. Donc, ouvrir un dialogue le plus librement possible, sans être intrusif, tout en respectant la pudeur de l'adolescent, est évidemment essentiel. Passer le relais, donner des outils aux ados, hein, si on n'est pas confortable avec ces questions-là. Il y a d'autres manières de les informer, de les accompagner. Et donc, comme vous nous avez dit, il existe aujourd'hui plein d'outils pour ça. Merci beaucoup, Sandrine, merci d'être venue partager avec nous votre vécu et celui de vos filles face à ces questions de leur sexualité. Et merci beaucoup, Sonia Lebreuilly, pour tous vos conseils. Je rappelle que vous êtes socio-sexologue et éducatrice en santé sexuelle.
Merci à vous.
Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.